ces femmes se préparent pour aller dans un village reculé, à 40 km de Kharkiv. Elles forment la brigade des psychologues ambulants de l'ONG Voices of Children, les voix des enfants.
Pendant 2 ans, aucune organisation, aucun volontaire n'est venu dans ce village. L'État ne s'intéressait pas à ces gens. Notre ONG est la première à leur apporter de l'aide.
Une quinzaine d'enfants attendent la brigade avec impatience.
Bonjour.
Une bouffée d'oxygène pour ces âmes abandonnées.
Ukraine, l'enfance volée de Tetiana Primatchouk et Philippe Lanier a été proposée lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société qui s'est déroulé du 1er au 5 avril à Douai. Et il était en lice dans la compétition des films de plus de 40 minutes. Ce film retrace au travers de plusieurs portraits et témoignages le quotidien d'enfants ukrainiens, victimes collatérales de la guerre contre la Russie. Ils expriment leur résilience, leur colère, leur force pour parvenir à se reconstruire malgré la dramaturgie du conflit. Ce film évoque également ces enfants enlevés à leur famille en Ukraine pour être déportés en Russie. Et il met aussi à l'honneur plusieurs ONG qui luttent pour l'avenir de ces enfants. Avant de retrouver la réalisatrice Tetiana Primatchouk en interview, je vous propose des propos recueillis à l'issue de la séance auprès d'élèves du lycée Fénelon de Lille, juste après un extrait du film.
Au cœur de l'été, des missiles russes s'abattent sur la capitale de l'Ukraine. L'un d'eux vise le plus grand hôpital pour enfants du pays.
À ce moment-là, je me suis dit, ça ne peut pas être vrai.
Je ne sais pas si Соломійка мені там жива. Там пожежа, там горить. Треба швидше дітей забирати.
J'ai commencé à chercher ma fille partout dans l'immeuble. J'ai trouvé ma fille. Elle était très heureuse. Elle pleurait. À ce moment-là, elle ne savait pas où j'étais, ni si j'étais vivante.
J'ai pensé à ma maman. J'avais peur qu'elle soit sous les décombres et qu'elle soit morte.
C'est un crime terrible, inhumain, contre l'Ukraine, contre l'humanité, contre les enfants. Comment peuvent-ils justifier l'envoi de missiles sur un hôpital? Ces enfants souffrent déjà puisqu'ils sont malades.
Ça recommence.
Non, on dirait, mais ce n'est que le tonnerre. Mais ça ressemble beaucoup à une attaque.
Alors moi personnellement, j'étais pas au courant de tout. Par exemple, les enfants qui se faisaient kidnapper en soi et qui étaient partis du coup en Russie, ça j'étais pas du tout au courant. Et c'est vrai que petites larmes ont coulé sur mes joues, en effet, parce que c'est vrai que faire ça à des enfants, c'est dur. Et vu qu'ils ont notre âge, on se met souvent à leur place. Moi, j'aurais pas été capable de moralement de survivre à tout ça. Donc c'est vrai que c'est très dur à voir.
C'est très dur à voir, mais malheureusement, c'est la dure réalité. Et, j'ai trouvé le reportage très intéressant, mais très triste.
Il y a un témoignage, un personnage, on va dire, entre guillemets, qui t'a le plus ému que d'autres ?
La petite fille qui a perdu ses deux parents et elle a marché sur tous les corps.
Ça, c'est
vraiment horrible et je ne sais pas comment elle fait pour s'en remettre.
Elle fait pour ne pas pleurer à ça.
Je pense que ça, c'est un effet du post-traumatisme, en fait. Ouais. À un moment donné, il y a un blindage qui se fait.
Mais moi, au début, quand j'avais vu avant de voir ça, là, je savais qu'il y avait la guerre, mais je m'y intéressais pas non plus énormément. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit arrivé tout ça. Surtout les enfants. Les enfants qui se font enlever. Ça, je m'y attendais pas.
Je suis un peu choquée un peu de tout ce que j'ai vu. J'étais au courant, mais j'avais jamais pris le moment pour réfléchir de ce qui se passait psychologiquement pour les enfants. Et j'avoue que même là, ça me donne encore de l'émotion. Enfin, j'arrive pas à réaliser qu'on peut être autant cruel avec des enfants et même avec des humains en général. Je trouve ça humainement horrible, en fait.
Surtout cette stratégie perverse d'enlèvement d'enfants pour les désucraniser, comme ils disent.
C'est clair. En fait, même le terme désucraniser est hyper fort, je trouve. C'est ce que j'ai retenu du film. C'est quand même horrible d'enlever un enfant à sa nation pour juste le mettre comme genre esclave de guerre. Je trouve ça horrible et je comprends pas comment on peut faire ça, en fait. C'est humainement horrible, comme je disais.
Il était en train de sourire, le Poutine, avec la dame qui travaille. Et qu'elle était fière d'avoir pris un enfant ukrainien avec elle.
Pour soumettre les Ukrainiens, Vladimir Poutine est prêt à tout. Même à prendre des enfants malades pour cible. Sa détermination mortifère m'obsède. Je m'appelle Tetiana Primatchuk. Je suis née en Ukraine. J'ai quitté mon pays pour la France à l'âge de 21 ans. C'était en 2005. Toute ma famille est restée là-bas. Quand la guerre a éclaté, mes parents, médecins à la retraite, ont décidé de continuer à exercer, par devoir. Mon père est chirurgien. Ma mère, pédiatre. Mon petit frère opère dans un hôpital de campagne sur le front. Il est chirurgien, lui aussi. Aujourd'hui, personne n'est épargné par ces conflits barbares. Dans cette guerre qui s'enlise, il est une victime innocente, presque invisible. L'enfance.
Les traumatismes sont comme des radiations. Ils détruisent l'avenir des enfants sans qu'on s'en aperçoive.
Les Russes ont tué mon père. Je ne ressens qu'une chose. Je veux que tous les Russes crèvent. Je hais toute la Russie.
Comment empêcher ces enfants meurtris de devenir des adultes assoiffés de vengeance ? L'Ukraine a-t-elle les moyens de prendre soin de la santé mentale de ces êtres vulnérables quand la priorité est de sauver des vies et de repousser l'ennemi ?
On retrouve à présent la réalisatrice pour un entretien autour de son film. Tetiana, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai envie de vous demander Comment ça s'est passé le débat avec le public qui était plutôt jeune d'ailleurs?
J'étais très surprise parce qu'effectivement il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados en fait. C'était des enfants, des jeunes qui avaient à peu près le même âge que les personnes que je filme dans le documentaire. Et j'étais très surprise parce qu'ils m'ont posé beaucoup de questions et du coup l'animateur il a dû arrêter le débat pour, pour passer à un autre film parce qu'ils étaient curieux. Et il y en a plusieurs qui sont venus me voir, remercier parce qu'ils disaient que chacun connaissait quelqu'un, un Ukrainien, une Ukrainienne, un adulte, un enfant qui vit toujours là-bas. Et du coup, ils m'ont dit quelque chose que j'ai jamais pensé, que on leur a proposé un film qui parle aux enfants, en fait. Alors que moi, je faisais un film, en vrai, je suis très sincère avec vous, aux adultes. Et je ne me suis jamais posé cette question. Et apparemment, c'était un film aussi pour les enfants.
Le film traite essentiellement de la reconstruction de ces enfants dans ce conflit, aussi bien mental que physique. D'abord, quand est-ce que vous avez commencé le tournage et combien de temps ça a duré ?
Le film, on a mis à peu près 10 mois, je dirais entre 10 mois et 12 mois pour le faire. Donc on est allé 3 fois en Ukraine. La première fois avec le co-auteur Xavier Muntz, on est allé en repérage pendant 2 semaines. Et ensuite, on est allé avec Philippe Lanier qui est tourné, du coup, qui était à l'image, 2 fois. Et à chaque fois, environ en moyenne 3 semaines sur place, 3 semaines et demie sur place.
Ça a été compliqué d'expliquer aux enfants qu'ils allaient être filmés, qu'on allait raconter un petit peu leur parcours. Est-ce que vous avez passé du temps avec eux pour leur expliquer justement que c'était important aussi de témoigner ?
Déjà, quand on travaille sur ces types de formats, des documentaires assez longs, des 70 minutes, pour vous dire, déjà, je me suis beaucoup documentée et renseignée comment on fait, en fait, quelle est l'approche, justement, comment on aborde ces enfants qui vivent dans un pays en guerre. Après, il faut savoir quand même que je ne suis pas détachée de l'Ukraine et à ma famille qui vit toujours là-bas, mes parents qui travaillent toujours là-bas, mon frère qui est mobilisé en tant que chirurgien. Donc, j'ai un pied toujours là-bas, en fait. Donc, j'ai approché beaucoup d'associations, en fait, beaucoup d'ONG qui est ukrainienne ou étranger, qui sont en Ukraine, avec qui on a beaucoup discuté, qui m'ont aidé aussi à rentrer en contact avec des enfants qui, selon eux, étaient prêts aussi à parler aux journalistes, parce que si un enfant, il vit un gros trauma, s'il est très, très, très traumatisé, ce serait pour lui peut-être nocif de parler à un journaliste. Du coup, nous, on a pris tout type de précautions, justement, pour parler à ces enfants de leur traumatisme. Et donc, il y a certains enfants avec qui on était en contact à distance, et d'autres enfants, comme Max, un ado qu'on filme dans le documentaire, c'était une rencontre en fait. C'était à Kharkiv, je l'ai rencontré dans la rue, il est venu me voir, on a discuté, il m'a posé plein de questions et c'est comme ça, petit à petit, on a construit quelque chose, une relation de confiance. Mais jamais, comme je dis, on ne se jette pas sur des gens avec une caméra en fait. Il y a vraiment un lien des confiances. J'explique vraiment le projet, j'explique qui je suis parce que c'est important, parce qu'on pose beaucoup de questions aux gens qu'on interview, mais on raconte peu de choses sur nous et il y avait vraiment des vrais échanges qu'on a eu avec ces enfants, ces ados et surtout aussi leur famille et leur psychologue avant de passer à l'étape suivante, le tournage.
Alors il y a beaucoup d'émotions évidemment parmi tous ces témoignages, ces portraits de jeunes. On évoquait Max hein, qui a perdu son père. Il y a une certaine violence quand même qui s'installe chez ces enfants. Est-ce que c'est légitime ? Oui. Est-ce que vous avez encore des contacts avec eux et qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces jeunes enfants ?
La guerre, c'est la violence, en fait. On ne peut pas appeler la guerre différemment, en fait. C'est la violence physique, psychologique. C'est des enfants traumatisés. C'est les enfants traumatisés physiquement qui n'ont plus de jambes, qui n'ont plus de mains, qui n'ont plus de maison, qui perdent leur famille, qui perdent l'avenir, qui perdent leur rêve en fait. Et donc déjà la guerre c'est violent en fait. Et oui, je suis en contact avec tous ces jeunes, je continue toujours à entretenir un lien avec eux parce que justement on passe beaucoup de temps à créer un lien avec eux et du coup on coupe pas un lien comme ça du jour au lendemain parce que le film il est fini. Donc j'ai régulièrement des nouvelles, par exemple vous voulez des exemples du coup ?
Oui, le petit Kirill par exemple, parce que c'est le témoignage le plus poignant. Sa personnalité a complètement changé, son état mental était complètement brut de décoffrage.
Le petit Kirill, quand on le filme, il a 7 ans. Cet enfant, et son papa, il était mobilisé et il n'est pas du tout militaire, son père, donc il était mobilisé par l'armée pour rejoindre le front. Et quelques mois après, ils ont reçu une lettre qui leur dit que leur père est porté disparu. Et du coup, pas de corps, pas de funérailles. Et pour un garçon de 7 ans, c'est compliqué d'accepter la mort de son père, alors qu'il a eu encore, il y a une semaine, au téléphone. Et du coup, ce garçon, il change, en fait. Il dessine des armes, il connaît des armes par cœur, il connaît des termes que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Avec la pâte à modeler, il fabrique des chars, et même un de ses rêves, il veut construire un char, en fait. Et ce garçon, donc, sa maman, elle dit qu'il est devenu agressif, qu'il s'est bagarre même avec d'autres enfants alors qu'il joue sur un terrain de jeu. Et aujourd'hui, donc déjà plusieurs mois après le tournage, on a appris que la maman, elle a reçu le corps de son mari. Donc il y avait un échange des corps entre la Russie et l'Ukraine, et le corps de son mari était répatrié en Ukraine. Donc ils ont pu enterrer, c'est très important pour faire le deuil, c'est pouvoir enterrer son proche. Et le petit Kirill, il avait toujours du mal à accepter la mort de son père, mais aujourd'hui ça va mieux parce qu'il consulte et va toujours régulièrement un psychologue. Et aujourd'hui il a quand même évolué, il a fait un pas vers le deuil parce qu'il s'est rendu au cimetière, même s'il ne s'est pas rendu encore sur la tombe de son père, il s'est rendu au cimetière, il reste toujours dans la voiture, il attend que sa mère aille sur la tombe de son papa, mais il reste pour le moment dans la voiture.
Puis il y a cette demoiselle aussi très touchante également, qui ne pleure pas, qui elle a carrément enjambé les corps pour aller voir si sa famille était encore vivante. Elle, c'est pareil, c'était assez compliqué pour elle.
Cette jeune femme s'appelle Ksusha, donc elle a seulement 16 ans quand je l'ai filmée. Et quand le drame lui était arrivé, donc elle était encore plus jeune, elle avait 14 ans. Et effectivement, elle n'a pas juste marché sur les corps, elle a marché sur des morceaux des 60 personnes qui étaient tuées, en fait, qui étaient mortes. Elle cherchait ses parents, elle a perdu sa mère, son père et sa grand-mère. Et donc, dans le film, on voit qu'elle est prise en charge par une ONG, une association ukrainienne qui fonctionne uniquement grâce aux dons privés, qui s'appelle Gen Ukrainian. Et du coup, elle fait une espèce de colonie de vacances, mais pour les traumas les plus durs, donc les plus lourds, pardon. Et pendant 21 jours, il y a des psychologues qui travaillent avec un groupe d'enfants, justement, pour qu'eux, ils puissent avancer. Et Ksusha, aujourd'hui, je sais qu'elle est poursuivie par cette ONG Gen Ukrainian. Et du coup, cette ONG, elle a trouvé un financement pour Ksusha. Et Ksusha, elle pourra faire des études à l'étranger, en Grande-Bretagne.
Autre ONG également, Voice of Children. C'est des psychologues itinérants aussi. Vous pouvez me parler un petit peu de cette ONG qui est plutôt quand même assez intéressante.
The Voices of Children, c'est une ONG qui existe depuis des dizaines d'années, je ne sais plus trop exactement, mais depuis plusieurs années en Ukraine, bien avant la guerre. Et ils ont mis en place beaucoup, beaucoup de choses, et c'est une des petites branches qu'ils font pour les enfants. Ils ont des psychologues itinérants, ce sont des groupes de psychologues, 4 personnes qui se déplacent dans des villes abandonnées, qui sont proches du front, où voilà, où il n'y a pas d'infrastructure, il y a des villes qui sont... Il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de médecin, mais il y a quand même les gens qui continuent à y vivre. Il y a des enfants qui continuent à y vivre. Et les psychologues, ils vont à la rencontre de ces enfants pendant 2 mois et demi seulement, qu'ils prennent en charge ces enfants, qu'ils les divertissent aussi et qu'ils font beaucoup d'art-thérapie. Et après, ils partent parce qu'il y a beaucoup d'autres enfants, beaucoup d'autres villages, beaucoup d'autres villes qui ont besoin de ces types d'aide.
Puis il y a cette force également, c'est ce portrait de cette jeune demoiselle qui a perdu ses jambes, Yana, ouais, c'est ça, et qui fait un marathon. Et
effectivement, Yana, quand on la filme, elle a 13 ans, et elle a perdu ses jambes quand elle a eu 11 ans, donc c'est un bébé, j'ai envie de dire. Et cette fille, elle est très 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 forte, très très résiliente, parce qu'elle a appris à marcher sur les prothèses. C'est très 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 difficile, en fait, de s'approprier les prothèses, surtout de 2 jambes, et surtout que le cours des marathons aujourd'hui, effectivement, elle parcourt 5 km, elle a fait un marathon, 5 km de marathon de Boston, et là récemment, au mois de mars, le marathon de Tokyo.
Cette ONG aussi qui intervient pour exfiltrer les enfants qui ont été enlevés. Hein. On peut dire quand même que c'est une stratégie assez perverse, hein, de Poutine et de la Russie en général, pour désukrainiser, on va dire, ces enfants et se les approprier, même pour les mettre au combat.
Il s'agit de l'ONG qui s'appelle Save Ukraine. Elle fait partie justement du programme du président ukrainien Vladimir Zelensky, faire revenir les enfants en Ukraine. Et officiellement, depuis 2022, il y aurait près de 20 000 enfants qui étaient déportés de force, transférés sur le territoire russe par les autorités russes pour transformer ces enfants ukrainiens en citoyens russes. Le nombre de ces enfants, on ne le connaît pas en fait, parce que la guerre en Ukraine a commencé en 2014. Combien d'enfants ont été volés, combien d'enfants ont été transférés de force et combien d'enfants vivent toujours dans des villes occupées aujourd'hui par les autorités russes ou pro-russes. Il faut savoir qu'ils subissent le même traitement que sur le territoire ukrainien. Il y a des camps militaires où il n'y a pas que des garçons, mais les filles aussi qui sont obligées d'aller dans ces colonies militaires, où ils sont obligés de chanter l'hymne russe, de parler le russe. On leur interdit, on leur punit aussi s'ils parlent, voilà, s'ils obéissent pas. Et donc on essaie effectivement on essaie de leur laver le cerveau tout simplement.
Comment ça se passe pour justement exfiltrer tous ces enfants? Parce que j'imagine que c'est assez compliqué, les faire sortir de Russie pour les refaire revenir en Ukraine.
Malheureusement, on ne le saura jamais parce que c'est un secret en fait. Parce que cette association, elle souhaite continuer à exfiltrer ses enfants et donc elle ne peut pas nous raconter comment elle le fait justement pour pouvoir continuer à le faire.
Pour terminer, j'ai envie de dire Slava Ukraini.
Slava Ukraini, Heroyam Slava, merci beaucoup. Et je voudrais quand même dire que le documentaire est toujours disponible sur Replay, donc sur France 5, l'émission Le Monde à Face. Et je veux dire aussi que c'est un documentaire qui est fait par toute une équipe, voilà, que je remercie profondément.
Les autorités russes tentent d'empêcher le rapatriement des enfants ukrainiens en changeant leur prénom, leur date de naissance. Les retrouver devient pratiquement impossible.
La Russie est confrontée à une énorme crise démographique et elle reconstitue sa population grâce aux enfants ukrainiens. Il s'agit d'un plan clair de la Russie. On peut le voir dans tout ce que la Russie fait aujourd'hui. L'enlèvement forcé d'enfants, l'endoctrinement, la russification, l'introduction de passeports et la militarisation de ces enfants pour que ces enfants deviennent des soldats russes et combattent contre l'Ukraine.
Mais comment récupérer les enfants ukrainiens qui ont été influencés par la propagande russe? Il faut les abandonner?
Nous n'abandonnerons jamais aucun enfant. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, cette guerre se poursuivra tant que les Russes ne nous auront pas rendu le dernier enfant ukrainien enlevé. Même s'il a subi un lavage de cerveau et qu'il croit que l'Europe est mauvaise, que l'Amérique est mauvaise et que seule la Russie est bonne. Les enfants retenus en Russie doivent connaître la vérité grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. C'est notre mission, sinon leur psychisme va être altéré.
Comment les enfants reviennent? Save Ukraine ne le révèle jamais. L'ONG a mis 6 mois pour exfiltrer Rostislav. Il a passé un an en Russie. Le jeune homme a échappé de justesse à l'enrôlement dans l'armée russe. Depuis son retour, il vit dans un foyer de Save Ukraine avec d'autres rescapés.
Quand je pense à ce que j'ai vécu, ici je ne me sens pas seul.
Nos histoires se ressemblent. On a vécu la même chose. Entre nous, on se comprend. Quand je raconte mon histoire à mes copains de Kiev, ils me disent que je mens, que j'exagère.
Ils pensent que c'était facile, mais en réalité, c'était dur.
En fait, ils pensent que c'était des vacances. Bref.
S'ils avaient vécu ce qu'on a vécu, ils comprendraient mieux notre situation.
Rostislav vivait avec sa mère, près de Kherson, quand l'armée russe a envahi sa ville. Les soldats lui ont pris sa mère malade et l'ont placée dans un hôpital. Lui est envoyé dans une colonie des vacances en Crimée pour 2 semaines. Mais à la fin de l'été, il est placé dans un collège militaire. Les Russes veulent lui laver le cerveau, le désukrainiser, comme on dit dans ma langue.
Il nous disait de respecter la Russie. Il nous disait qu'il fallait parler russe, pas ukrainien. Tous les matins, on se levait, on prenait le petit déjeuner et on chantait l'hymne national russe. C'était obligatoire.
Mais Rostislav n'a cru ni aux promesses, ni à la version russe de l'histoire.
On nous disait que l'Ukraine avait attaqué la Russie, qu'on était des nazis. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de rester là-bas, de ne plus revenir chez moi. Et qu'on m'envoie à la guerre pour me battre contre mon pays, contre l'Ukraine.
Le jeune homme a été exfiltré par Save Ukraine. Depuis, il est devenu photographe pour l'association qui lui a redonné la liberté. L'ONG ukrainienne a rapatrié 523 enfants depuis le début de l'invasion. À peine 3% des enfants déportés par les Russes.
Reportage réalisé lors de la 32e édition du FIGRA, Festival international du grand reportage d'actualité et du documentaire de société, qui s'est déroulé du 1er au 5 avril à Douai. C'était autour du film documentaire « Ukraine, l'enfance volée » de Tetiana Primatchouk et Philippe Lanier. Il était en lice pour la compétition des films de plus de 40 minutes et a reçu le prix du public.